France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. La France des accents qui passionne les scientifiques. Festival inédit en ce moment à Saint-Étienne. Il est temps difficile de les réhabiliter. Reportage dans un instant. Une sortie mondiale pour les mémoires de Gisèle Pellicot, désormais star partout dans le monde. En France, c'est l'éditeur Flammarion qui rafle la mise. Nous parlerons de la loi narcotrafic, bataille à l'Assemblée nationale ce matin, et de celle sur l'agriculture, en partie censurée par le Conseil constitutionnel. Qu'en reste-t-il ? À suivre encore, la défense de l'Europe. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Et Emmanuel Macron qui propose d'accélérer.
Oui, rendez-vous jeudi à Paris pour la coalition des pays volontaires. L'idée, c'est d'être prêt en cas de cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie.
A tout de suite pour vos explications. Nous vous raconterons également ce gendarme français devenu héros en Croatie et honoré hier soir avant le match de l'équipe de France par les supporters croates. Et puis le premier aéroport d'Europe, celui d'Heathrow à Londres, fermé toute cette journée. À partir de 13h30, il incarne l'expression « avoir le triomphe modeste ». Émilien, le candidat qui bat tous les records de longévité à la télévision, plus d'un an et demi de présence sur TF1 dans les 12 coups de midi. Il est avec nous, il répond à vos questions. 01 45 24 7000, si vous appréciez sa personnalité ou si vous vous passionnez pour ses jeux. 13h50, c'est la France, Futuna, dans le Pacifique, terroir du rugby français. Ce sera avec Jean-Baptiste René du journal L'Équipe. Juste avant 14h, c'est une chanson Matt Pokora et Michael Jackson.
Anyway, ok, what you tell, steady, ok. Tout ça, j'ai le frisson. Je suis devant la télé, j'ai 5 ans, j'ai un frisson. Il se passe un truc, je me dis waouh, c'est génial, c'est un super héros le mec.
Tout cela au micro de Frédéric Pommier. Et puis la météo de votre week-end avec Élodie Calac dans une demi-heure. Et toujours du vent dans le sud, nous serons dans le département du Tarn. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Cela ne saute pas aux oreilles quand on écoute l'immense majorité des journalistes, des acteurs ou des ministres. Mais le français se parle avec un accent plus ou moins prononcé selon les régions et les personnes. Des accents qui ont longtemps été moqués ou brimés. Cela est-il en train de changer ? En tout cas, l'Université de Saint-Étienne organise en cette fin de semaine le premier festival des accents de France. C'est très sérieux et notre journaliste Mathilde Imberti s'y est rendue ce matin.
C'est un rendez-vous initié par un collectif de scientifiques, des spécialistes de la variation de la parole. Et en découle toute une série de problématiques. Par exemple, est-ce que les accents sont en voie de disparition ? L'éclairage de Médéric Gasquet-Cyrus, sociolinguiste, Université Aix-Marseille.
Alors c'est sûr que si on se place d'un point de vue un peu nostalgique, on va dire « bah oui, les jeunes ne parlent pas comme autrefois, donc on dit ils perdent l'accent ». Mais en fait, ils ne perdent pas, ils prennent d'autres traits. Je vais bosser à Paris, peut-être qu'au début ça va être rigolo, comme disait le Marseillais, le pastis, le soleil et tout. Et au bout d'un moment, je vais avoir envie qu'on me prenne en considération pour autre chose que ça. Et au lieu de dire le jaune, je veux dire le jaune. Au lieu de dire le pain, je veux dire le pain. Et ça va petit à petit transformer ma façon de parler sans que je perde forcément quelque chose, parce qu'il suffit que je passe deux jours à Marseille pour que je dise oh, les collègues, on se boit une verre de vin. Ouais, la mobilité croissante fait qu'on est exposé à plein de sons.
Le festival fait aussi intervenir des artistes, laisse la place au jeu. Hier, il y avait un quiz sonore, un extrait, et on doit deviner d'où vient cette dame.
Des faux parisiens, figurez-vous, que j'ai rencontrés. Alors pour moi, des imbéciles parisiens, des faux.
La réponse était de Carcassonne, et personne n'a su répondre dans le public hier. Alors peut-être parce que la première édition se tient à Saint-Étienne, chez le linguiste Olivier Glin.
Alors le parler stéphanois, on appelle ça le parler gaga. Par exemple, on va dire le menuisier dans son atelier. Chez nous, ça va faire des R, des E, donc ma mère, du gerbeur. On a une intonation particulière, c'est-à-dire qu'on va pouvoir parler comme ça.
Un festival pour épouser la diversité des accents, et nous sommes tous concernés, Jérôme.
Ça n'existe pas ne pas avoir d'accent. Même l'accent dit standard est un accent parmi d'autres. J'ai un accent, toi aussi.
Nous avons tous un accent, Mathilde Imberti, à Saint-Étienne pour Inter l'an prochain. Ce festival aura lieu à Marseille. La bataille a duré des mois entre les plus grandes maisons d'édition. Qui allait publier les mémoires de Gisèle Pellicot, devenue le symbole de la lutte contre les violences sexuelles depuis le procès de Mazan, son refus du huis clos et la condamnation de son ex-mari Dominique, mais aussi celle de 50 co-accusés. Au final, en France, c'est Flammarion qui s'est montré le plus convaincant. Bonjour Adrien Serrière.
Bonjour.
Je dis en France, mais en fait, il y aura plusieurs éditeurs. On parle d'une sortie mondiale.
Oui, on parle d'un livre traduit en 20 langues, publié simultanément dans le monde entier. Ce sera fin janvier 2026. Un événement littéraire comme on en voit rarement pour les biographies. Et c'est une agence internationale qui gère les droits du livre, qui a donc négocié les contrats au cas par cas avec les différents éditeurs nationaux. La patronne de Flammarion, Sophie de Closet, a mené la négociation en personne.
Je l'ai rencontré avec ses avocats. On a beaucoup discuté de la manière dont on voyait cette publication. Et puis, ça s'est fait assez simplement. C'était vraiment une histoire de rencontre plus que de contrat, d'argent, de montant, de trucs. Ça ne s'est pas joué à ça, mais un alignement de personnalité, je pense, et de vision. Et ça se joue parfois à pas grand-chose. Un sentiment qu'on va passer beaucoup de temps ensemble et que ça va bien se passer, et une histoire de confiance.
Et pour l'instant, aucun chiffre divulgué concernant les sommes ou les tirages envisagés. Uh-huh. Flammarion nous dit seulement qu'ils sont proportionnels à l'attente générée par ce récit intime de Gisèle Pellicot.
Est-ce que l'on sait, Adrien, ce que l'on va trouver dans ce livre ?
Eh bien déjà, le récit attendu de ce que Gisèle Pellicot a vécu ces dernières années, peut-être au-delà. Elle qui ne s'est jamais exprimée publiquement, en dehors de brèves déclarations. Elle pas toujours à l'aise avec le fait de se raconter. D'ailleurs, ce sont les éditeurs qui ont eu l'idée de ce livre et non l'inverse. Mmh. Mais Gisèle Pellicot veut rendre ce qu'elle a reçu, elle qui continue de recevoir des caisses de lettres du monde entier. Surtout, elle veut donner de l'espoir aux personnes qui traversent des épreuves difficiles. Et pour l'écriture, elle sera accompagnée par la journaliste et romancière Judith Pérignon. Le titre français est encore inconnu, mais sa version anglaise s'intitulera « Un hymne à la vie ».
Sorti début 2026. Merci Adrien Serrière. Les éditions Grasset, elles, dénoncent les menaces de mort proférées contre les auteurs d'un livre enquête publié cette semaine et consacré à la mort du jeune Thomas à Crépol. Les auteurs sont calomniés par certains médias, harcelés sur des sites internet et les réseaux sociaux qui véhiculent mensonges et contre-vérités, affirme l'éditeur. Le livre s'intitule Une nuit en France. Ses auteurs étaient cette semaine les invités d'Inter. Aucun remords dans les paroles du djihadiste Medine Mouche ce matin devant la cour d'assises spéciale de Paris, accusé d'avoir été un geôlier des journalistes français pour le groupe État islamique, c'était en Syrie en 2013, il a à nouveau nié lors de sa dernière intervention avant le verdict, tout en revendiquant son passé de terroriste. Compte-rendu Gaëlle Joly.
J'ai été un terroriste et je ne m'en excuserai jamais, lance Medine Mouche debout dans le box avec ses nombreuses feuilles à la main. Je ne regrette pas un jour, pas une heure, pas un acte. Au passage, il cite Nietzsche, Montaigne, George W. Bush ou Vladimir Poutine. Je suis un homme debout et je ne serai jamais à terre, conclut l'accusé. Ce matin, comme tout au long du procès, il a refusé de reconnaître son rôle de geôlier. Une prise de parole qui a fait bondir l'ancienne otage et journaliste Nicolas Hénin.
Il n'est là que pour déverser de la toxicité dans le débat public. Le premier jour, j'avais envie qu'il parle. Le deuxième jour, j'avais envie qu'il la ferme. Ce procès, je le vois comme une étape. Après, il va falloir travailler sur ce procès. Il va falloir décortiquer ses messages et il va falloir reprendre le bâton pèlerin pour que les messages toxiques qui ont pu être répandus durant ces semaines d'audience fassent le moins de dégâts possible dans les esprits des personnes qui pourraient y être sensibles.
Après 5 semaines de débat, l'accusation a réclamé la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans contre Medine Mouche, qualifié de criminel sans état d'âme et de l'un des djihadistes les plus cruels de ces dernières années.
Gaëlle Joly à la cour d'assises spéciale de Paris, verdict attendu pas avant 18h. À Saint-Étienne, un incendie volontaire a visé hier soir un collège de la ville. Information de nos confrères d'ici Saint-Étienne-Loire, l'établissement va rester fermé toute la journée. Le feu est parti cette nuit et la nuit dernière donc est déclenché par des personnes qui ont pu s'introduire dans cet établissement et allumer le feu. Elle a été votée à l'unanimité au Sénat. C'est une toute autre affaire à l'Assemblée nationale. La proposition de loi de lutte contre le narcotrafic. Son examen se poursuit en ce moment même dans l'hémicycle. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
Vous avez suivi les débats ce matin. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, doit batailler avec les oppositions.
Oui, alors il a défendu hier soir l'accès des enquêteurs aux messageries chiffrées comme WhatsApp ou Signal.
Ceux qui sont des criminels, ceux qui sont des terroristes ont migré massivement sur des messageries cryptées. On le sait. Et si nous ne disposons pas de ces techniques, nous allons désarmer nos services. Des services dont l'objet, ce n'est pas d'espionner les Français, mais c'est de protéger les Français.
Contre lui, la plupart des groupes politiques, de la gauche au Rassemblement National, Aurélien Lopez-Ligori.
Dans tous les cas, vous entraînerez une dégradation du chiffrement. Vous allez affaiblir notre souveraineté et notre sécurité.
Après un vote laborieux...
On va recommencer, petit problème technique. Est-ce qu'on peut remettre à zéro ?
Panne électronique, il a fallu appeler les députés un par un. L'accès aux messageries chiffrées a été rejeté. Ce matin, les députés ont en revanche rétabli la possibilité de garder secrète certaines pièces de procédure. C'est le fameux dossier coffre qui braque les avocats. Il a été adopté. L'article qui réactive le clivage gauche-droite, c'est la possibilité pour les préfets, pas les juges, les préfets, de prononcer des interdictions de paraître sur les points de deal ou d'expulser des locataires de logements sociaux. Il est très débattu en ce moment même.
Sarah Guibaudot, là, la loi a déjà été votée le mois dernier. Elle se voulait une réponse au mouvement de colère des agriculteurs. La loi d'orientation agricole a été largement censurée par le Conseil constitutionnel. Un tiers de ses articles supprimés ou modifiés, pas pour des raisons de fond, mais parce que les juges du Conseil ont estimé qu'ils n'avaient pas de lien suffisant avec le texte. Bonjour Mariam El Kurdi.
Bonjour.
Est-ce que ce sont des mesures majeures qui tombent ?
Oui, des mesures d'ordre environnemental. Parmi les dispositions retoquées, celles qui consistaient à arrêter la surtransposition des normes européennes, notamment en matière d'usage de pesticides, lors des mobilisations agricoles. Souvenez-vous, cette mesure était réclamée par la FNSEA, les JA et la coordination rurale, les syndicats invoquant la concurrence déloyale. Véronique Le Floch, présidente de la CR.
Puisque demain, on va laisser rentrer dans notre pays de nombreux produits ne correspondant pas à nos normes et qu'on va condamner nos agriculteurs et notre production française, eh bien, on a tout faux.
Le Conseil constitutionnel censure également le principe dit de non-régression de la souveraineté agricole. Cela veut dire que pour les sénateurs, la production alimentaire ne doit pas se faire au détriment de la biodiversité. Décision saluée en revanche par Thomas Outaïa-Koumar, porte-parole de la Fondation pour la Nature et l'Homme.
On a aujourd'hui un son de cloche qui est positif et qui permet de dire l'environnement, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est ce que le Conseil constitutionnel rappelle. On a donc des élus qui ont mal travaillé, qui ont juste voulu pousser cet agenda productiviste à tout prix et qui n'ont pas compris qu'il y avait quand même des règles, qu'il fallait absolument les respecter, notamment en matière de préservation de l'environnement.
Et la prochaine bataille des associations de protection de l'environnement, c'est le projet de loi Duplon qui vise notamment à faciliter l'usage de certains produits phytosanitaires. Après une validation au Sénat, elle doit passer à l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines.
Mariam El Kurdi, Nicolas Sarkozy a-t-il fait financer sa campagne électorale de 2007 par l'argent de la Libye du dictateur Kadhafi ? Procès fleuve débuté le 6 janvier qui va décider du sort d'un ex-président, mais aussi de quelques-uns de ses proches comme Brice Hortefeux, Claude Guéant ou encore Éric Woerth. Voilà pourquoi nous allons plus loin dans ce 13-14 avec vous Charlotte Piré. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
On peut dire que la semaine a été difficile pour la défense.
Oui, du fait d'un témoin en particulier, policier spécialisé. Alors, c'est très commun dans les procès que le directeur d'enquête soit appelé à témoigner, mais c'est généralement à l'initiative du parquet, donc de l'accusation. Et au début, histoire de planter le décor en quelque sorte. Or ici, l'enquêteur qui a travaillé pendant 10 ans sur ce dossier était cité de manière inattendue, pour ne pas dire très maladroite, par un des avocats de la défense. Défense qui a donc passé un bien mauvais moment puisque, sans aucune note et pourtant de manière très précise, l'enquêteur financier a repris les uns après les autres, comme pour les marteler en fin de procès, les éléments matériels du dossier, telle écoute téléphonique, tel document ou telle perquisition qualifiée de caverne d'Ali Baba du blanchiment.
Nicolas Sarkozy, lui, a jeté ses dernières forces dans la bataille.
Et il avait clairement préparé son moment. Son épouse Carla Bruni, pour la première fois présente à l'audience, quelques feuilles sur le pupitre de la barre, il s'est lancé dans une longue tirade avec beaucoup d'arguments déjà développés, pour ne pas dire un peu éculés. La visite de Mouammar Kadhafi à Paris n'était que la contrepartie de la libération des infirmières bulgares. J'ai sauvé 6 vies, Madame la Présidente. Je suis ici pour défendre mon honneur ou encore l'énormité de ces accusations. Mais on l'a aussi vu sur un autre terrain, celui d'un peu plus de vulnérabilité. « En venant cet après-midi, j'avais une telle colère en moi », a-t-il par exemple confié au tribunal. Ou encore, « Je ne sais pas si vous vous rendez compte de mon degré d'investissement dans ce dossier ».
Bon, le réquisitoire aura lieu mardi. Est-ce qu'on a des indices sur ce qu'il contiendra ?
Alors, le premier indice, c'est la durée, puisque les 3 procureurs financiers ont réclamé 2 jours et demi d'audience pour soutenir leur version du dossier. Quant au déroulé, l'articulation la plus habituelle, prévenu par prévenu, est quasiment impossible ici, vu la complexité de l'affaire et l'entrelacement des mis en cause dans ce qu'on leur reproche. Alors les procureurs ont choisi une approche thématique. Pacte de corruption en Libye le premier jour, contrepartie et financement de la campagne de Nicolas Sarkozy le deuxième, tableau de Claude Guéant et divers autres volets le dernier jour, qui s'achèvera là, c'est habituel, par les peines réclamées à l'encontre de chaque prévenu.
Merci Charlotte Piret pour ces explications. On vous retrouve évidemment dans les prochaines semaines.
Avec plaisir.
Le ciel est calme aujourd'hui au-dessus de Londres et pour cause, l'aéroport d'Heathrow, le plus grand d'Europe. 1350 atterrissages et décollages par jour, cet aéroport est fermé. Toute cette journée, un incendie dans une sous-station électrique entraîne une vaste coupure de courant et bien sûr une belle pacaille dans les transports. Sur place, Laura Calmus.
Devant l'entrée du terminal 2, des barrières bloquent l'accès, empêchant quiconque de s'approcher à plusieurs centaines de mètres de l'aéroport d'Heathrow. Fermé jusqu'à minuit, l'aéroport a demandé à ses passagers de ne pas se rendre sur place, mais certains n'étaient pas au courant. Jamie, un Américain en transit à Londres avant de rejoindre Mumbai, découvre le chaos.
Mon avion a été annulé et personne ne me l'a dit, et là je suis en train de geler dehors. Personne ne m'a rien dit, la compagnie aérienne ne m'a rien dit, je suis au courant de rien.
D'autres ont trouvé refuge dans un hôtel situé à proximité de l'aéroport. Sur les écrans, la nouvelle s'affiche en boucle, tous les vols de la journée annulés. Steven, venu du nord de l'Angleterre, déplore le manque de communication.
British Airways ne m'a absolument pas contacté. Mon vol n'est même pas affiché comme étant annulé. Ce sont les autres voyageurs de l'hôtel qui m'ont informé que c'était annulé.
Plus de 1300 vols perturbés, affectant près de 290 000 passagers, annulations, retards en cascade. Certains avions ont été déroutés vers d'autres aéroports comme Gatwick, l'aéroport du sud de Londres, mais aussi Paris, Francfort ou Shannon en Irlande. D'autres avions ont dû faire demi-tour en plein vol et retourner à leur aéroport de départ.
Et la police antiterroriste britannique annonce à l'instant qu'elle mène l'enquête sur cet incendie, Laura Calmus, à Londres pour Inter. Là, tout le monde a rendez-vous à Paris la semaine prochaine. Emmanuel Macron veut y réunir jeudi ce qu'il appelle une coalition de volontaires. Étienne Monin, on vous retrouve. Il s'agirait de pays qui accepteraient en fait d'envoyer des troupes pour garantir un cessez-le-feu en Ukraine.
C'est ça, et on parle d'une trentaine de pays. Alors on peut citer la France, la Pologne, le Canada, l'Australie. Chaque pays fixe son niveau d'engagement avec l'objectif, alors à la fois d'encadrer un cessez-le-feu s'il est signé, et puis assurer un soutien de l'Ukraine une fois la paix signée. C'est un concept qui a été élaboré au début du mois. Le gros du travail a été fait, ou un gros travail a été fait, a dit le président français. On est en train de passer de l'élan politique à la planification militaire, a précisé le Premier ministre britannique, parce que hier, les responsables militaires de cette coalition étaient réunis. Ils ont envisagé une architecture pour renforcer les troupes ukrainiennes et non les remplacer. On parle d'un soutien aérien, maritime et terrestre. Il pourrait y avoir des troupes au sol, mais peut-être avant tout pour la formation et le renseignement. Le Premier ministre britannique hier n'a pas reparlé des 30 000 hommes au sol comme envisagé précédemment. Et on ne sait pas s'il y aura un filet de sécurité américain.
Donc les Européens tentent de s'organiser sans les Américains. Et il y a une autre initiative, Étienne, mais là, à l'intérieur de l'OTAN.
Oui, l'info vient du Financial Times. D'après le journal, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne sont en train d'élaborer un plan pour faire basculer l'effort militaire et financier de l'OTAN des États-Unis vers l'Europe. L'Amérique supporte aujourd'hui les deux tiers des dépenses militaires. Le plan des Européens prévoirait une réappropriation, en quelque sorte, d'ici 5 à 10 ans. Il pourrait être présenté aux membres lors du sommet de l'OTAN qui est programmé au mois de juin.
Et Emmanuel Macron affirme à l'instant que la Russie montre qu'elle ne partage pas la volonté de paix après de dernières frappes russes en Ukraine. Merci Étienne Monin. Il faut prendre des territoires aux Palestiniens de Gaza. Ordre donné par le ministre israélien de la Défense à l'armée. Israël Katz estime qu'il faudra annexer ces zones vidées de leur population si le Hamas ne libère pas les otages. Israël a rompu le cessez-le-feu avec le Hamas mardi. Hamas qui détient toujours 58 otages, dont 24 présumés vivants. Et puis le gouvernement israélien veut destituer le chef de ses services de renseignement, le chef du Sinn Bet. Mais à l'instant, la Cour suprême israélienne, elle, suspend cette décision. Lui a combattu avec les Croates. C'était lors de la guerre d'indépendance qui a déchiré l'ex-Yougoslavie. Il est français, il s'appelle Jean-Michel Nicolier. Son histoire est inconnue en France, mais sa mort en Croatie en a fait un héros. À tel point qu'hier soir, avant le match de foot Croatie-France, remporté par les Croates, les supporters croates lui ont rendu hommage en déployant un immense portrait dans les tribunes, sous les yeux de notre envoyé spécial, Xavier Monferrand.
L'image a surpris tout le monde. Un dessin représentant le visage de Jean-Michel Nicolier, brandi par les ultras de la Torcida, les supporters du Hajduk Split, le club résident du stade Poljud, accompagné par des applaudissements nourris du public croate, debout. Méconnu en France, mais héros national ici en Croatie, Jean-Michel Nicolier avait choisi de s'engager aux côtés des Croates lors de la guerre d'indépendance, en 91. Il n'a alors que 25 ans quand il débarque de Vesoul, plongé dans cette guerre fratricide qui déchire la Yougoslavie. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais il fait partie des victimes présumées du massacre de Vukovar qui a fait 264 morts à la frontière serbe, d'où le message qui accompagnait le tifo hier soir en croate. Vukovar, c'est mon choix, à la vie, à la mort. Jean-Michel Nicolier a été décoré à titre posthume par le président croate en 2011 pour honorer celui qui est né français et mort croate. Il y a 4 ans, Emmanuel Macron, en visite en Croatie, avait d'ailleurs rencontré sa mère qui vit toujours ici.
Ces guerres du présent et du passé ont inspiré en France un habitant de la Meuse. Il s'appelle Jean-Paul Vriss. Il a créé l'initiative Flags for Peace, des drapeaux pour la paix, en plantant plus de 16 000 drapeaux rouges, 16 000 fagnons dans une vallée, dans sa commune de Romagne sous Montfaucon. Nous sommes à quelques kilomètres de Verdun. Et cela donne, Sarah Mansoura, un paysage étonnant et qui interroge.
Jean-Paul Vriss, néerlandais installé depuis près de 30 ans dans la Meuse, avait déjà l'habitude ces dernières années de planter des drapeaux autour de son musée.
J'ai commencé à planter chaque fois 1500, 2000 drapeaux, des petits projets qui suivaient ou des tranchées ou un petit rivière qui méandre dans notre jolie nature.
Mais il voit rapidement plus grand et décide, il y a un an et demi, de recouvrir cette vallée, surnommée Vallée de la Paix. Il réussit à créer un immense champ de fagnons rouges, 16 800 au total, fabriqué à l'aide de lycéens des Pays-Bas et planté en quelques jours avec des dizaines de bénévoles.
Chaque drapeau présente ceux qui sont tombés ici sur le champ de bataille, mais ça pouvait être n'importe quel champ de bataille. J'ai choisi aussi pour cette raison la couleur rouge, parce que c'est la couleur de notre sang ou leur sang qui a coulé dans la terre. Et la couleur rouge, c'est aussi la couleur de l'amour.
Un hommage, insiste-t-il, à ceux tombés pour la liberté.
Parce qu'à ce moment, vous voyez autour de nous, la liberté n'est pas si sûre qu'on pense. Parce qu'on a besoin de paix. C'est vraiment nécessaire à ce moment. Tout ça, l'Ukraine, Gaza, mais toutes ces guerres, ce sont des guerres que, encore une fois, les fils ou filles de quelqu'un sont en train de mourir.
Ces drapeaux resteront plantés jusqu'au 1er avril. Jean-Paul Vriss espère ensuite les faire voyager sur d'autres champs de bataille et ne s'interdit pas de viser Waterloo ou les plages de Normandie.
Et son musée sur la guerre de 14-18 est ouvert du vendredi au dimanche à Romagne sous Montfaucon. Le 31e SID Action a débuté ce matin. Il se tient jusqu'à dimanche dans un climat qui a changé. L'Organisation mondiale de la santé avait fixé l'objectif de zéro nouvelle contamination en 2030. Mais la baisse des budgets américains pour la santé change la donne. Le professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris, rentre d'un congrès mondial sur le sida aux États-Unis.
On est absolument sidéré à la fois par le fait que les scientifiques américains sont eux-mêmes sidérés, censurés, c'est pour certains qui sont sortis des équipes, et surtout par le fait que ça inonde la recherche mondiale. Faut prendre un exemple, hein. Il y a quelque chose aux États-Unis qui s'appelle le PEPFAR, ça veut dire le plan d'aide au sida qui a été mis en place par Bush en 2003, 110 milliards de dollars, il y a eu 25 millions de vies sauvées. Ce plan est complètement à l'arrêt. Il y a même une application qui permet de regarder le nombre de morts et le nombre d'enfants morts et d'adultes morts du seul fait du gel du PEPFAR. Donc ça, ça a un impact direct sur la nécessité que nous, on va avoir à développer plus de recherches. Et je pense que le SID Action est une occasion pour le rappeler dans ces domaines qui vont être totalement invisibilisés.
Gilles Pialoux au téléphone de Victor Dolande. SID Action jusqu'à dimanche soir. En France, 200 000 personnes vivent avec le VIH et près de 5 500 nouvelles séropositivités ont été découvertes en 2023. Nous ferons un point météo complet dans quelques minutes. Mais on peut d'ores et déjà dire que ce début de printemps est particulièrement venteux. À Nice, aujourd'hui, où les parcs, jardins et cimetières de la ville sont fermés, mais aussi dans 5 départements en vigilance orange pour le vent, l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne et le Tarn. Département du Tarn, où dans la commune de Dourgne, dans la nuit de mercredi à jeudi, on a enregistré des pointes à 151 km/h. Alexandra Lagarde s'y est rendue pour Inter.
Sur la place centrale, le vent secoue les grands platanes. Sous l'un d'eux, Olivier Maricher remballe son stand à la hâte.
Depuis ce matin, ça souffle énormément. Et là, il me tarde de rentrer.
Les jeudis, c'est marché hebdomadaire, mais cette fois, peu de commerçants sont venus.
Je suis tout seul à plier, ouais. Après, le problème, c'est le vent, ça abîme tout. Ça se flétrit, voilà.
Dans la rue, un ou deux courageux s'aventurent dehors. René, une baguette sous le bras, fait au plus vite.
Et voilà, je fais les courses et puis je rentre, ouais, c'est sûr.
À deux rues de là, dans l'épicerie, le vent est forcément un peu dans toutes les conversations.
J'ai eu une micro-coupure à 7h30. Mmh. Je me suis dit non, ça va commencer. Et en fait, plus rien.
À certains endroits de la commune, le courant a tout de même été coupé pendant quelques heures. Ça faisait longtemps que le vent n'avait pas soufflé si fort, d'après Simone. La dernière fois, elle était enfant et elle a 80 ans.
Bon, ça fait quelques années quand même qu'il ne soufflait pas comme ça. Hein.
Et ça demande forcément d'être un peu prudent. André prend ses précautions, mais il tient bon à 88 ans.
Restez-en, surtout les vieux. Parce qu'un coup de vent, on est par terre.
Et il faut dire, difficile de rester debout avec de telles rafales, quel que soit l'âge. Le vent a soufflé jusqu'à 151 km/h dans la nuit de mercredi à jeudi.
Un reportage ici, Occitanie. Une découverte maintenant d'une partition qui ne s'est pas envolée, mais qui dormait dans les archives de la famille du compositeur arménien Aram Khatchatourian. Son fils a confié cette sonate inédite donc à un violoniste français. Il s'appelle David Aroutunian. Il vient de l'enregistrer dans un album, Stéphane Capron.
Khatchatourian compose cette sonate au début de sa carrière dans les années 30. Elle est restée enfouie dans un tiroir pendant près de 90 ans, jusqu'au jour où son fils, Karen, la donne à David Aroutunian à la fin d'un concert.
Quand il m'a dit qu'il y avait une sonate pour violon et piano, c'est mon activité principale de jouer des sonates. Donc je me suis dit, mais comment on ne l'a pas encore fait? J'ai pris mon courage à deux mains, je me suis dit, voilà, il n'y a personne qui dérange, personne qui aide non plus. Donc il fallait vraiment trouver tout ce qu'il a pu imaginer. Et puis quand même, l'idée qu'il n'ait pas voulu l'éditer de son vivant, c'était assez étrange parce que l'œuvre est vraiment très belle.
Cette unique sonate de Khatchatourian vient donc désormais rejoindre le patrimoine de la culture arménienne. Défendue par David Aroutunian.
Je me sens une responsabilité de défendre cette lignée de la musique de Khatchatourian et en général de la musique arménienne. Il y a quelque chose qui est presque viscéral et vital maintenant pour l'Arménie. On sait très bien les questions politiques qui se passent. Malheureusement, on est dans un carrefour un peu dangereux pour l'Arménie. Donc voilà, je considère un petit peu mon archer comme mon épée.
Et dans cet album, enregistré avec la pianiste Zenia Malyarevitch, figure aussi un autre inédit, la danse numéro 1.
The Dancing Violin, c'est le titre de cet album consacré donc au compositeur arménien Aram Khatchatourian. C'est sur le label Fuga Libera, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à partir de 13h30, le roi des jeux télé, Émilien, avec nous, près d'un an et demi de victoire dans l'émission de TF1, les 12 coups de midi. Et toujours cette modestie qui convainc le public. 01 45 24 7000 pour être avec nous. Si ce parcours vous interpelle ou si vous êtes tout simplement passionné de jeux radio ou télé, venez nous le dire. 13h45, notre feuilleton en ce début de printemps, la filière fleurs dans une ferme près de Saint-Étienne aujourd'hui. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Jean-Baptiste René et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Jean-Baptiste, on part dans le Pacifique avec vous.
Oui, puisque le tournoi des 6 nations de rugby féminin commence demain. Et pour ce premier match en Irlande, les Françaises seront emmenées par Manae Feleu qui a appris le rugby à Futuna, une petite île du Pacifique qui regorge de talents mais suscite aussi la convoitise de la Nouvelle-Zélande.
Futuna, réservoir pour le rugby français. Et avec vous Frédéric, un chanteur.
Il est aussi danseur, c'est M. Pokora qui sort aujourd'hui même son 10e album, Adrénaline. Et de l'adrénaline, il y en a dans la chanson dont il a choisi de nous parler, Smooth Criminal, Michael Jackson, sa chanson préférée, son chanteur préféré.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
On en parle.
parle.
Alors que les Français ne savent plus vers quelle motorisation se tourner, Volkswagen lance la gamme e-hybride. On en parle avec Antoine Gaston-Breton, directeur marketing France de Volkswagen. Bonjour.
Bonjour.
Alors c'est quoi l'e-hybride ?
Eh bien c'est avant tout une nouvelle technologie qui vous permet de ne plus avoir à choisir entre thermique ou électrique.
Ah bon, c'est-à-dire ?
L'e-hybride de chez Volkswagen offre une autonomie en 100% électrique de plus de 140 km sur la Golf par exemple. Au-delà des chiffres, vous profitez de l'électrique au quotidien. Économie, silence et plaisir de conduite. En plus, avec sa recharge rapide, vous passez de 10 à 80% en moins de 30 minutes.
Très bien, mais pour les longues distances ?
Eh bien, la motorisation essence associée est tellement efficace que l'autonomie cumulée est impressionnante et peut dépasser les 980 km sur une Passat, dont 130 en électrique. Finalement, vous avez deux véhicules en un pour répondre à tous vos besoins et le choix entre Golf, Tiguan et Passat qui en sont déjà équipés.
Antoine Gaston-Breton, merci.
On en parle. Donnez WLTP. En savoir plus sur Volkswagen.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
France Inter, partenaire du hors-série Télérama, écrit de résistance 1939-1945. Télérama rend hommage aux femmes et aux hommes qui firent de l'écriture une arme de résistance et de libération. Romans imprimés dans la clandestinité, recettes de cuisine écrites en camp de concentration, journaux intimes, témoignages enfouis. Ce hors-série met en lumière ces écrits de survie et d'espoir essentiels à notre histoire et à notre présent. Écrits de résistance, à lire en ce moment avec France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Encore beaucoup de vent dans le sud.
Oui, des Pyrénées vers le Massif central et le sud-est. Le vent souffle fort, une vigilance orange est en cours de la Haute-Garonne vers les Bouches-du-Rhône. Jusqu'en début d'après-midi, le vent d'autant peut atteindre 100 km à l'heure, 100 à 120 même vers le Lauragais et la Montagne Noire. Le vent d'est, lui, se renforce encore en Méditerranée, jusqu'à 90 à 110 km à l'heure de l'Hérault aux Bouches-du-Rhône. Attention aussi au risque de submersion, en particulier sur le littoral du Languedoc-Roussillon, en vigilance orange. Il y a des pluies qui circulent de la Normandie vers le Limousin et l'Occitanie, parfois orageuses et même soutenues vers les Cévennes. Près de l'océan, quelques averses, voire un orage cet après-midi. Ailleurs, c'est un voile nuageux très épais qui masque le soleil et ce soir, ça va se gâter sur ces régions de l'Est avec l'arrivée des pluies. Elles seront espacées au nord mais parfois soutenues et orageuses sur un quart sud-est. La douceur s'accentue à l'Est, ça commence à baisser en revanche à l'Ouest, alors 15 degrés à Brest, 18 à Cherbourg, Tours, Clermont-Ferrand, 21 degrés à Lille, Paris, Nancy et Besançon, jusqu'à 25 à Ajaccio. Et puis pour le week-end, des averses au menu, parfois marquées et orageuses, surtout vers les Cévennes.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Émilien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On ne connaît pas votre nom, mais il suffit de prononcer votre prénom pour que beaucoup de Français vous reconnaissent. Vous êtes la star des jeux télé en France depuis un an et demi maintenant. Le 25 septembre 2023, vous apparaissez pour la première fois dans le jeu Les 12 coups de midi, diffusé tous les jours sur TF1 entre 11h50 et 12h45, présenté évidemment par Jean-Luc Reichmann. Quatre candidats s'opposent, le vainqueur revient le lendemain. Depuis, vous n'avez jamais été battu, donc vous n'avez jamais quitté ce jeu de culture générale, pour ceux qui l'ignorent. Vous avez participé il y a quelques minutes, la diffusion était il y a quelques minutes, à votre 540e émission, et donc vous avez au final gagné.
J'ai gagné cette
émission. C'est ça, vous avez encore gagné. Au total, plus de 2 millions d'euros de gains, ce qui est considérable. On va parler avec vous pendant un quart d'heure de ce qui vous arrive, de votre passion aussi pour les jeux, de votre préparation, que j'imagine extrêmement rigoureuse, de votre esprit aussi, parce que vous ne faites pas que gagner, vous diffusez une espèce de sportivité, d'une modestie, qui je pense fait beaucoup pour votre popularité. Et puis on aura un petit quiz, évidemment, un petit quiz France Inter dans quelques minutes. 01 45 24 7000 pour vos appels, vous passez également via l'application France Inter. Et Charlotte est avec nous. Bonjour Charlotte.
Bonjour Jérôme.
Vous nous appelez d'Orange, et quand j'ai dit tout à l'heure qu'on recevait Émilien, tout de suite vous vous êtes dit, il faut que je lui parle.
Oh oui, oui, oui. Alors, est-ce que je peux me permettre de vous dire bonjour, mon petit cœur ? Cette familiarité, mais vraiment, c'est pour lui dire qu'il fait partie de notre quotidien. Et on coupe le téléphone à 11h50 pour ne pas le manquer, quoi.
Pourquoi, Charlotte ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Émilien, maintenant ? Tous les jours, vous le voyez dans ce jeu ?
Eh bien, d'abord, c'est un moment de grâce dans la journée. Et puis, c'est surtout pour une admiration sans borne par rapport à ses connaissances encyclopédiques. Et puis, sa gentillesse. Et puis,
Je tremble pour lui. Aujourd'hui, j'ai un petit peu tremblé parce qu'il a eu chaud, on va dire. Et j'imagine plus ne pas le voir tous les jours à midi. Et puis, j'ai les larmes aux yeux quand il commence à frôler un peu la limite. Comme aujourd'hui, c'était quelques secondes seulement de différence. Et un gros soupir de soulagement. Et je dis, non, il ne faut pas qu'il nous quitte. Ce n'est pas possible. On a pris l'habitude. Voilà.
Mais il n'y a pas que ses connaissances qui vous impressionnent.
Ah non. C'est, je sais pas, ça réserve une sorte de timidité et en même temps une assurance. Mais quand je le vois inspirer, expirer, je fais comme lui.
Mais oui, est-ce que vous essayez vraiment de lui souffler à distance, Charlotte?
Oui, mais des fois je dis, mais comment il sait pas, une expression courante, mais il sait tellement de choses à côté qu'on ne sait pas. C'est impressionnant, c'est époustouflant, il n'y a pas de mots, tous les mots ont déjà été utilisés.
Merci Charlotte d'avoir été avec nous en direct d'Orange. Émilien, quand on reçoit autant d'amour, et je suppose que ça vous arrive régulièrement depuis quelques mois, qu'est-ce qui se passe?
C'est extrêmement perturbant, en même temps c'est très très gentil, mais on ne se rend pas compte quand les émissions sont tournées que ça peut avoir un tel impact sur les gens, qu'on peut comme ça avoir ce genre d'impact comme ça. C'est très perturbant, en même temps c'est extrêmement flatteur, extrêmement gentil, mais très intimidant également.
Ça a été sur le fil aujourd'hui? Moi j'étais dans la préparation du 13-14, donc j'ai pas pu regarder, mais c'était chaud.
Ça a été effectivement assez serré aujourd'hui, c'est sûr.
Mais finalement vous vous êtes à nouveau imposé. Comment tout cela a-t-il commencé? Vous avez 22 ans, vous êtes originaire de Vendée, vous faisiez des études d'histoire à Toulouse comme des milliers de Français étudiants, et puis vous êtes lancé dans ce jeu.
Oui, en fait, je regardais les 12 coups de midi quand j'étais plus petit, avec mes grands-parents notamment. Et quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit, tiens, je vais essayer de m'y inscrire, ça me donne envie. Et j'ai passé les sélections à 18 ans. Je n'ai pas été retenu à ce moment-là. Et puis, il y a 2 ans, ma grand-mère m'a repoussé. Elle m'a dit, pourquoi tu ne retenterais pas les sélections? J'ai suivi son conseil et à ce moment-là, j'ai été sélectionné. Et depuis, il en est ce qu'il en est.
Ils vous ont recalé lors du premier casting?
Oui. Après, il y a plein de raisons. Je pense qu'à 18 ans aussi, j'étais très, très timide, très réservé. Et il y a besoin, on le sait, d'être un minimum à l'aise quand on passe à la télé comme ça, quand on joue dans ces jeux. Et en l'occurrence, je pense que ce n'était pas mon cas, mais ce n'est pas plus mal. Je pense que je n'aurais pas fait ce parcours-là si j'avais été sélectionné la première fois.
Les producteurs cherchent des personnalités, donc c'est pour ça que la première fois, peut-être ils ne vous ont pas retenu, puis ils vous ont retenu quelques années plus tard. Qu'est-ce que vous alliez chercher dans ce jeu?
J'allais chercher le plaisir de jouer, parce que j'aimais beaucoup l'émission. Je la regardais énormément en famille. Et donc, en fait, c'était vraiment pour la continuité. J'avais l'occasion, une fois majeure, de participer. Donc, vraiment, c'était ça. Et puis, j'aime énormément les jeux de culture générale en eux-mêmes. Et les 12 coups, c'est un jeu de culture générale avec un format qui est hyper intéressant, avec plein de petites subtilités. Donc, moi, c'est ce genre de choses qui me stimulait.
Est-ce que vous alliez chercher aussi la reconnaissance, la popularité? C'est à la télévision, il y a plusieurs millions de Français qui regardent, et donc vous devenez connu. Et évidemment, quand vous restez 540 jours de suite, vous êtes un peu plus connu que quand vous arrivez.
Alors l'objectif, c'était pas ça du tout, c'est d'ailleurs toujours pas ça, absolument pas. L'objectif, c'est vraiment juste de venir répondre à des questions de culture générale. Moi, c'est ça qui me stimule, c'est ça qui m'intéresse. J'adore jouer, je joue énormément, je jouais énormément, et je continue encore. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse, apprendre des choses, c'est ça qui me plaît.
Mais vous refusez pas la popularité, vous saviez que ça faisait peut-être partie du jeu. Comment vous la gérez aujourd'hui?
En fait, on s'en rend pas compte en arrivant, c'est-à-dire qu'on vient un petit peu innocemment, et on est prévenu que quand on reste quelques jours de suite dans l'émission, eh bien cette popularité va arriver, mais en fait c'est pas ça qu'on cherche. En fait, on ne s'y attend pas tant que ça. C'est assez surprenant.
Ça a été une surprise pour vous?
En fait,
à quel moment vous en êtes rendu compte?
À partir du moment où on nous le dit déjà dans les enregistrements, en restant quelques jours de suite, on nous dit que la popularité va finir par arriver, ouais, avec ses bons comme avec ses mauvais côtés. Et en fait, c'est vraiment ça. On est assez surpris, assez vite, je dirais pas pris au dépourvu, parce qu'on est quand même assez encadré à ce niveau-là. Mais c'est surprenant, ça c'est sûr.
Brigitte est en ligne avec nous du Pays Basque, je crois. Bonjour Brigitte.
Oui, bonjour Monsieur Cadet.
Je vous écoute, vous êtes une fidèle d'Emilien, vous êtes... Tomber sous son charme? Comment est-ce que vous regardez son parcours?
Ah oui, tout à fait. Moi aussi, j'aime beaucoup l'émission de Jean-Luc Reichmann, et je trouve Émilien très sympathique et simple en même temps, modeste. Et il a dit qui voulait enseigner l'histoire, et je crois qu'il a raison. Moi-même, j'ai enseigné 35 ans. Et c'est un beau métier, même si c'est pas toujours facile.
Merci Brigitte pour ce témoignage, pour Émilien, et puis aussi pour cette question. On va prendre un petit peu d'avance, j'ai plein d'autres choses à vous demander, mais la suite, Émilien, une fois que peut-être ce jeu va s'arrêter, peut-être vous y resterez à vie, on sait pas, mais est-ce que vous avez envie d'être enseignant, vous qui êtes étudiant en histoire ?
Enseignant, effectivement, pourquoi pas. J'ai commencé mes études d'histoire simplement parce que les études me plaisaient, que j'aimais beaucoup ce domaine. La suite logique, effectivement, de mes études, c'est régulièrement le professorat. Après, est-ce que je finirai enseignant ou autre chose ? Je ne sais pas. En tout cas, je ne ferme aucune porte.
Mais comment se passent vos semaines ? Vous continuez d'aller en cours ?
Alors, j'ai un petit peu arrêté depuis un an et demi. J'avais essayé de faire les deux en même temps. En fait, ça n'a pas été trop possible de conjuguer à la fois les enregistrements et les cours. Donc, j'ai un petit peu mis ça en pause. Mais du coup, je les reprendrai très probablement après, ça c'est sûr.
Donc joueur à plein temps, pour l'instant.
Oui.
2 millions d'euros de gains, plus de 2 millions d'euros, 19 voitures, des voyages, des cadeaux. Qu'est-ce que vous faites de tout ça ?
C'est vraiment vertigineux, on ne sait pas. Vraiment, ça dépasse clairement l'entendement. Il y a de quoi faire plaisir aux gens autour de nous. Et en fait, vraiment, on est un petit peu dépassé par la situation et par l'afflux de tout ça.
Vous dites « on », vous dites pas « je ». Ça veut dire que c'est votre famille aussi avec vous ?
Oui, effectivement. J'ai la chance d'être accompagné par ma famille dans l'émission. Ils sont venus régulièrement. Ils apparaissent également en visioconférence derrière moi. J'ai la chance d'être soutenu. C'est vraiment une aventure qu'on vit ensemble. Et puis ils m'aident avec tout ça. On vit ça ensemble. On découvre tout ce monde ensemble. Donc ça, c'est vraiment très, très sympathique.
Vous dites, et de manière très spontanée et transparente, je ne sais pas quoi faire, on ne sait pas quoi faire de tout ça. Ça veut dire que vous faites des cadeaux, ça veut dire que vous revendez certaines des choses que vous avez gagnées ?
Effectivement, l'un et l'autre, en fonction de ce qui est, j'en garde pour moi, évidemment. J'en fais profiter un petit peu également ma famille. Et puis, il y a des choses où je revends, bien sûr.
Joueur à temps plein, ça veut dire que vous continuez de vous entraîner ?
Oui, effectivement, je joue énormément. Je jouais déjà beaucoup avant d'arriver à l'émission. Et depuis que j'y suis, j'ai le temps de faire ça effectivement à temps plein. Donc oui, je joue énormément, je m'entraîne énormément. Je lis, je prends des notes, je joue. Et en essayant de retenir au maximum les choses qui m'intéressent. Et en même temps, ça me fait découvrir des aspects de la culture générale que je ne soupçonnais pas. Donc effectivement, j'apprends et j'ai cette chance d'avoir le temps d'apprendre.
Ce qui est impressionnant, c'est que vous avez des connaissances. Parfois, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas, mais par esprit de déduction ou par d'autres connaissances que vous avez, vous arrivez à construire les mots. Et en fait, il se trouve que c'est la bonne réponse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez et comment vous réfléchissez ?
Ah, ça, c'est compliqué. Je crois que même moi, je ne sais pas expliquer comment je réfléchis. En tout cas, j'essaye de faire à chaque fois avec les éléments que j'ai, avec les éléments de réponse que j'ai. Quand on peut construire des mots comme ça avec quelques racines, c'est je pense, assez limpide pour quelqu'un qui a fait des langues. En l'occurrence, c'est pas mon cas, mais j'ai appris quelques racines comme ça en jouant. En fait, c'est intéressant de aussi déconstruire les mots ou de les construire. Donc en fait, c'est ça qui m'a plu. Et avec cet esprit de déduction, comme vous dites, c'est simplement juste essayer de faire avec ce qu'on a et essayer de trouver la bonne réponse, qui est quand même l'objectif à chaque fois.
Alors, vous gagnez sans interruption depuis septembre 2023, mais, et nos deux auditrices nous l'ont dit, vous ne gagnez pas n'importe comment. C'est peut-être ça aussi qui fait votre popularité. On a souvent l'impression que vous vous excusez presque quand vous donnez la bonne réponse. D'où ça vient cette modestie ? Est-ce que vous dites qu'il faut que je fasse quand même attention à ne pas montrer d'arrogance ou bien c'est naturel ?
Non, je ne sais pas. C'est vrai que je n'ai jamais fait spécialement attention à ça. Forcément, en fait, on joue contre des personnes qui sont humaines, qui ont des sentiments en face. On les voit, on est à côté d'eux. Donc forcément, en fait, on n'a pas envie de vexer, pas envie de faire mal. Donc c'est simplement ça.
La mode est plutôt personnalité qui parle fort, qui semble sûre d'elle-même dans les médias et ou ailleurs. Vous, c'est pas votre style, Émilien.
Je ne sais pas ce qu'est vraiment mon style. En tout cas, ce qui me stimule, c'est vraiment d'apprendre, de répondre aux questions qu'on me pose. C'est vraiment ça qui me stimule. C'est ça.
Alors, pour continuer à gagner, il faut s'entraîner, hein, c'est ce que vous nous dites.
C'est effectivement
C'est ça, c'est la bonne méthode. Chose. Alors si on peut vous aider un petit peu, on va participer à cet entraînement avec un quiz France Inter. On a préparé 4 questions. Vous reconnaissez évidemment l'indicatif.
Évidemment, c'est la musique
et le générique,
des 12 coups, bien sûr.
C'est celui du jeu. Première question pour vous, Émilien. L'une de ces 3 personnalités n'a jamais présenté le 13-14. Est-ce que c'est Yves Mourouzi ? Est-ce que c'est Jean-Pierre Pernaut ? Ou est-ce que c'est l'autre ?
C'est une bonne question. Je suis pas très calé en France Inter. Je pense que ça va vite se voir. Je vais dire Jean-Pierre Pernaut parce qu'il faut dire quelque chose.
Jean-Pierre Pernaut n'a jamais présenté le 13-14. Effectivement, c'est une bonne réponse. C'est un point pour vous. Yves Mourouzi et Christophe Ondelat l'ont présenté. Deuxième question, quelle est l'émission la plus ancienne sur l'antenne de France Inter ? Est-ce que c'est Le Masque et la Plume ? Est-ce que c'est Le Jeu des 1000 euros ? Ou est-ce que c'est l'autre ?
Le Masque et la Plume, peut-être ?
Le Masque et la Plume, 1955, 1958 pour Le Jeu des 1000 euros, 1997 pour Les Petits Bateaux. Quelle est l'émission qui suit ce 13-14, juste après nous, entre 14h et 15h ? Est-ce que c'est La Tête au Carré ? Est-ce que c'est La Bête au Carré ? Ou est-ce que c'est l'autre ?
La Tête au Carré ?
La Tête au Carré, c'est une mauvaise réponse. Ça, c'était le nom de l'émission que présentait précédemment Mathieu Vidard. Aujourd'hui, c'est La Terre au Carré. On en reste à 2/3. On en a une petite dernière pour la route. Ça, c'est une question qui concerne la première partie de ce 13-14. Dans l'actualité tout à l'heure, entre 13h et 13h30, j'ai parlé d'un festival des accents. Ce festival des accents, il a lieu en ce moment à Toulouse, à Saint-Étienne ou à l'autre ?
Une bonne question, je vais dire à l'autre, parce que je ne sais pas.
L'autre, c'est Marseille. Eh bien non, ça n'est pas à l'autre, c'est à Saint-Étienne. Ce n'est pas non plus chez vous, à Toulouse. Ça fait 2/4 pour vous. Bravo pour quelqu'un qui ne connaissait pas France Inter.
C'est moyen.
C'est pas mal du tout. Merci infiniment, Émilien, d'avoir été là, d'avoir partagé votre bonne humeur avec les auditeurs de France Inter, de vous être prêté aussi à l'exercice du quiz.
Merci à vous, merci pour l'invitation. C'était
et on vous
avec grand
souhaite
plaisir.
Une présence la plus longue possible. Donc tous les jours, les 12 coups de midi, 13h45 sur Inter. Dernier épisode de notre feuilleton sur la trace des fleurs. Après Lyon hier, direction la Loire voisine, Saint-Paul-en-Jarret. Notre reporter Claire Chaudière a rendez-vous avec l'une des figures du renouveau de la fleur française, Justine Martinez. Elle a lancé sa ferme florale bio il y a 4 ans. Reconversion réussie. Ce matin-là, il y a du soleil, on aperçoit les monts du Lyonnais et la végétation est en train de se réveiller après un long hiver.
Donc là, on est dans la vallée du Gier. Il y a une belle vue et puis aujourd'hui, il fait beau. C'est chouette. Un petit air de printemps. En face, c'est les monts du Lyonnais qui commencent. C'était une ancienne friche. Quand je suis arrivée, il n'y avait rien du tout. C'était un grand champ de ronces. Et puis petit à petit, voilà, on a aménagé. Ça, c'est la pépinière, en fait. Donc c'est là où...
Et là, il fait un peu plus chaud.
Ouais, ouais, ouais. C'est là où il y a toutes les petites plantes qui se développent. Ouais. Et ben là, on a des godessias. On a du bleuet, de la matricaire, des phlox. Donc, je m'appelle Justine Martinez. Ça fait 4 ans que j'ai lancé cette ferme florale. En fait, la saison, elle attaque vraiment là, en février-mars, sur des plantations que j'ai fait à l'automne. Ça, c'est les renoncules. Alors, les renoncules, c'est pareil, on les plante à l'automne. C'est des petites griffes. J'ai vu le premier bouton, là, regardez. Ouais, regardez, oh purée, elles arrivent. Regardez. Ouais.
C'est du velours rubis.
Regardez le cœur. Je crois que le cœur de l'anémone, c'est une de mes fleurs préférées. Le détail d'une fleur, dans ce qu'elle dessine, c'est une des plus belles choses. Non ?
Oui.
Quand tout ça va être en fleur, là, ça va envoyer.
Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure-là ?
Moi, j'étais éducatrice spécialisée pendant très longtemps à Marseille, pendant une vingtaine d'années. Et il y a 10 ans à peu près, j'avais un grand-père maraîcher et ça a toujours été mon rêve de travailler la terre. Et je savais pas qu'on pouvait faire des fleurs, en fait, et en vivre, quoi. Un peu comme on fait des légumes, quoi. Et puis, il y a ce mouvement qui s'est monté peut-être à partir de 2015, 2016. qui vient du Québec, des États-Unis, où en fait c'est un modèle qui est un peu calqué sur le maraîchage.
C'est ce qu'on appelle les fermes florales, c'est ça ?
On est exactement calqué comme les maraîchers. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que les fleuristes du coin, que ce soit Saint-Étienne, que ce soit Lyon, ils puissent bénéficier en fait de cette fleur locale qui est cultivée, ben voilà, de manière en plus biologique, avec un vrai respect du travail de la terre. Ça, c'est des pieds d'alouette. Ça, c'est des centaurées. Moi, je les attends. Là, je trouve qu'en plus, cet hiver, il est long, quoi. Et là, elles vont arriver petit à petit, les unes après les autres. Donc là, c'est génial parce que avec le local, vu qu'ils valorisent les clients fleuristes, que ce soit dans les boutiques ou sur les marchés, ils valorisent le local. Parce que ben, les gens, ils aiment ça. C'est tendance. Et mine de rien, ben, ils savent d'où ça vient.
Quand je vous ai eu au téléphone il y a quelques jours, vous étiez avec votre banquier. Globalement, financièrement, ça tient la route, ouais. Les fermes florales, ça marche ?
Ouais, moi j'en vis. J'attaque ma quatrième année, et ouais, j'en vis. La flore, elle reprend sa place dans l'agriculture, quoi. Et je pense que les gens qui achètent de la flore française et de la flore locale, ils apprécient ça aussi. Il va falloir du temps pour que la filière, elle se remette vraiment en marche, quoi. Mais les acteurs, ils sont sérieux, ils sont motivés et il n'y a pas de raison pour que d'ici quelques années, on n'arrive pas à passer au-dessus des 50%, quoi. Ce serait chouette. Moi, je pense qu'on va y arriver.
Une semaine dans leur vie, les 5 épisodes consacrés aux fleurs. Vous les retrouvez sur franceinter.fr.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le vendredi à 13h50, la France du sport, avec Jean-Baptiste René du journal L'Équipe. Jean-Baptiste, nous partons à 16 000 km d'ici, sur une toute petite île du Pacifique.
Oui, direction Futuna, un confetti de 83 km² où vivent moins de 4000 habitants, mais qui est devenu, au fil des années, un réservoir pour les équipes de France de rugby. La récente victoire des Bleus dans le tournoi des Six Nations a par exemple mis en lumière Yoram Moefana, auteur de 2 essais samedi dernier contre l'Écosse et désormais homme de base de Fabien Galthié. Moefana, un joli bébé de 1m82 pour 97 kg, né il y a 24 ans à Futuna, territoire français où règnent deux rois coutumiers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pouvoir législatif, mais ils jouent un rôle central dans les affaires culturelles et sociales. Alors, avant de rejoindre la métropole à l'âge de 13 ans, Moefana s'est entraîné sur le petit terrain de Fioua. Et sur cette même pelouse, il a croisé une jeune fille de son âge qui se souvient aujourd'hui d'un gamin petit et gringalé. Une autre époque. Cette jeune fille s'appelle Manae Feleu et elle aussi a fait un long chemin depuis ses parties entre la forêt et la mer. Elle est tout simplement co-capitaine de l'équipe de France qui, à son tour, va disputer le tournoi des Six Nations. Cela commence demain en Irlande.
Mais pourtant, cette joueuse Manae Feleu est née en métropole, à Mâcon.
C'est ça ? Puisque la capitaine des Bleus, en fait, est bourguignonne par sa mère, mais futounienne par son père. Elle a 2 ans quand la famille part s'installer en Polynésie. Avec 2 parents professeurs de PS, Manae touche là-bas à plusieurs sports, avant d'opter pour le rugby, sport dominant dans l'archipel. Puis, à 14 ans, premier virage dans sa vie de jeune femme. Elle s'envole pour la Nouvelle-Zélande, où ses années lycée se partagent entre la scolarité et le rugby au pays des All Blacks. Elle passe 3 ans là-bas, avant de rejoindre la métropole, où elle lance définitivement sa carrière au plus haut niveau, sans pour autant négliger les études. La deuxième ligne joue aujourd'hui à Grenoble et a commencé en parallèle des études de médecine. Manae Feleu a déjà vécu plusieurs vies, s'est déjà imprégnée de différentes cultures et c'est désormais l'équipe de France qui en profite.
Pourtant, il n'est pas certain, Jean-Baptiste, que ces territoires d'outre-mer continuent à alimenter les 15 de France.
Non, parce que d'autres pays plus proches s'y intéressent, à commencer bien sûr par la Nouvelle-Zélande où Manae Feleu a fait escale. Illustration des enjeux du moment dans cette partie du globe, le cas de Patrick Twifua, autre espoir du rugby. Originaire de Futuna, il est né et a grandi dans la Nouvelle-Calédonie voisine, mais à 15 ans, l'âge où d'autres font le grand voyage jusqu'à la métropole, lui aussi a choisi la Nouvelle-Zélande, plus proche, pour entrer au lycée. Il y bénéficiait d'une bourse de 20 000 euros pour étudier et jouer au rugby. Aujourd'hui, Patrick Twifua a 20 ans,
Il a toujours la nationalité française, mais en tant que résident néo-zélandais de longue date, il pourrait choisir de représenter les All Blacks, ce qui serait une première pour un joueur issu des territoires polynésiens. Alors, face à ces convoitises, le rugby français met-il tout en œuvre pour faire grandir et accueillir certains de ses plus grands talents ? Resté en Nouvelle-Calédonie, le père de Patrick Twifua disait récemment dans l'équipe « La France gagnerait vraiment à s'intéresser à ce qui se passe chez nous. Il n'y a pas que les mines de nickel, il y a les gens aussi. »
La France outre-mer, avec vous Jean-Baptiste René, Irlande-France, le rugby, l'équipe de France féminine. C'est donc demain en Irlande. De C'est la France. Ah, c'est une chanson, c'est le chanteur et danseur M. Pokora que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Son 10e album, Adrénaline, sort aujourd'hui. Album qui donnera lieu à une nouvelle tournée, ce sera l'Adrénaline Tour à partir de novembre. Et c'est de Michael Jackson qu'M. Pokora m'a parlé, chanteur et danseur comme lui. Ça n'est pas un hasard, il l'écoute, le regarde, l'admire depuis qu'il est tout petit.
Je dois avoir 5 ans, je dirais, au moment où vraiment je commence à découvrir Michael. Et vraiment, moi, ce qui m'a marqué, c'est le film Moonwalker.
Donc c'est vraiment lié à l'image.
Ouais, l'image, à moi, c'est ça. Le son couplé à un visuel, danse, stylisme, danseur accordé avec le chanteur, c'est ça tout de suite qui m'interpelle, ouais. Et musicalement, il y avait ce mix de différents genres musicaux et qui a donné cette appellation de King of Pop, quoi. Parce que Michael, que tu sois rocker ou une petite midinette de 16 ans, tout le monde écoutait, il mettait tout le monde d'accord avec sa musique.
Autour de vous, c'est un chanteur qu'on écoutait à ce moment-là ?
Oui, mon frère, mon grand frère, qui a 7 ans de plus que moi. Donc lui, il était vraiment bien conscient de qui était Michael. Lui, il est de la génération Thriller. Et il me montre, c'est lui qui me montre Moonwalker, c'est mon frère qui me montre le film. Et donc c'est un peu mon frère qui me plonge dans Michael, ouais.
Cette chanson, Frédéric, c'est Smooth Criminal, sorti en 1987.
Oui, sur Bad, le 7e album de Michael Jackson, c'est la chanson préférée d'M. Pokora. Et là encore, c'est par l'image, par le clip qu'il l'a découverte, toujours dans le film Moonwalker.
Quand je le vois dans le club années 30, là, à danser avec son chapeau blanc, son petit brassard bleu sur le bras, avec les danseurs autour, en borsalino. La fameuse scène où il se penche, où il enclenche des petits clips là, qui sont sur le sol et il se penche. Le refrain avec la chorégraphie avec les danseurs. Any are you okay? Would you tell us that you're okay? Tout ça, pff, j'ai le frisson. Hein. J'ai le frisson là, en racontant, j'ai le frisson. Je suis devant la télé, j'ai 5 ans, j'ai un frisson. Il se passe un truc, je me dis waouh, c'est génial, c'est un super héros le mec.
Et vous, vous commencez à chanter et à danser à quel moment ?
Danser déjà devant le miroir très vite, hein. Moi à 5 ans, 6 ans, j'allais mettre un débardeur blanc, je mettais une chemise blanche, je prenais dans le dressing de ma mère et je mettais des pansements au bout des doigts et je mettais devant le miroir et je dansais, je prenais une raquette de plage, je faisais la guitare. Très tôt, hein, j'ai eu ce goût du spectacle, dans tous les spectacles de fin d'année, en colo l'été, je faisais les colonies de vacances. J'ai amené 2-3 gars de la colo, je dis venez, je vais vous apprendre des chorés, je faisais des chorés sur les Backstreet Boys après. Et donc c'est Michael qui m'a donné ce goût pour le chant, la danse, enfin cet alliage des deux.
Et vos premiers costumes, il y avait les pansements sur les doigts ?
Ah ouais, les premières fois où je danse devant mes parents, etc., je mets les pansements. Hein. Je vais dans la trousse de secours et je vais prendre des pansements, je mets des pansements au bout des doigts. Ça m'a valu quelques engueulades aussi, hein, parce que je vidais quand même le stock de pansements très régulièrement. Je suis allé à l'école avec des pansements sur les doigts et tout.
Pour ressembler à Michael ?
Ouais, pour être comme Michael, ouais. Ouais.
Ce qu'on sait aujourd'hui de Michael Jackson, les accusations de pédophilie, est-ce que ça a modifié un petit peu votre perception du souvenir que vous aviez de lui ?
Évidemment, ça peut un peu altérer le plaisir. Après, ça n'enlève en rien le génie, etc. Et après, il n'y a pas de fumée sans feu, évidemment. Mais en fait, moi, ce qui me ramène à Michael, c'est l'enfant. Quand j'écoute Michael, j'ai 5 ans, 6 ans, 7 ans, et j'ai pas envie de me projeter sur les accusations, etc. et me dire, ah, mais ça m'enlèverait toute une partie de ma vie si importante pour moi, de kiff pour la musique, pour le visuel, pour tout ça. C'est tellement de souvenirs heureux pour moi.
Cette chanson-là, Smooth Coming Out, vous diriez qu'elle a quoi de plus que les autres ?
Elle a 20 ans d'avance. La rythmique, le phrasé, les couplets, ils sont limite en murmurant. Et les nappes comme ça, les cuivres qui rentrent sur les refrains. Pour moi, c'est la plus grande chanson de tous les temps.
Smooth Criminal, Michael Jackson. C'était donc, Frédéric, le choix d'Mpokora.
Mpokora, dont sort aujourd'hui même le 10e album. Il s'appelle Adrénaline.
Merci Frédéric et à lundi, à la technique cette semaine. Merci à Élise, Christophe, Florian Dorémini et Selim Guéribi, à la rédaction en chef Cécilia Arbona, Estelle Schmitt et Sébastien Sabiron, assistés de Swat Bellani, Nicolas Sabat, Antoine Bouche et Stéphane Rousset, notre chargé de programme Claire-Sophie Collet. Merci également à tous nos standardistes.